une initiative de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de sa directrice, tout à fait appropriée, car elle s'inscrit au sein d'une démarche mémorielle plus vaste. Appropriée, car elle s'adresse aux intéressés eux-mêmes, à leur histoire, à leur mémoire au pluriel. Elle s'adresse à des élèves de collège, de lycée, à la population en général. J'avais été frappé, au moment de ma mission, par la méconnaissance de l'histoire de la guerre d'Algérie, sans même parler des harkis, par les jeunes, et aussi par des moins jeunes générations, pour que ce type de journée soit à saluer. C'est donc aux plus jeunes, et à travers eux aux harkis, à leurs descendants, aux filles de harkis qui sont mises à l'honneur aujourd'hui, que je souhaite m'adresser en priorité. Je souhaite leur dire, selon moi, qui sont les harkis, et quelles traces, quelle mémoire ils laissent dans cette France des années 2020, plus de 60 ans après la fin du conflit algérien, et comment ils sont reconnus aujourd'hui. Chers élèves, qui sont les harkis? Les harkis, c'est une histoire singulière, celle de Français musulmans d'Algérie, qui, à un moment de leur vie, ont été amenés à servir la France pendant ce que notre pays a mis beaucoup de temps à appeler la guerre d'Algérie. Ils l'ont fait, pas toujours par choix, peu par idéologie, mais toujours avec honneur, et ont été affublés du vilain mot de supplétif, comme s'ils n'avaient été là que pour suppléer, comme des auxiliaires, comme des hommes de second rang, de seconde zone, alors que leur rôle fut essentiel au cœur de la stratégie militaire française. C'est pourquoi il convient de proscrire ce vocable de supplétif pour toujours lui préférer le terme générique de harki, qui veut dire « en mouvement » en langue arabe. Les harkis, c'est une histoire, mais les harkis, c'est un drame terrible, sans équivalent dans l'histoire de la pré-seconde guerre mondiale, celui de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, pour une partie délaissée sur leur terre natale, désarmée, en proie aux exactions et aux massacres, pour une autre partie, rapatriée en métropole, déracinée, exilée, reléguée dans des camps, dans des hameaux de forestage, des cités urbaines, des prisons, avec des conditions de vie souvent indignes, dérogatoires du droit commun, facteurs d'exclusion, de retard de tous ordres, source de violence, de traumatisme durable. C'est l'histoire d'un abandon, et il faut pouvoir entendre, accepter encore aujourd'hui la souffrance de ces personnes, leur haine parfois, leur colère souvent. Les harkis, c'est un espoir et une attente qui demeure, par-delà les épreuves, celle de la pleine et entière reconnaissance de la nation, celle de l'enseignement et de la transmission de leur histoire et de leur mémoire aux jeunes générations, comme avec cette journée, celle de la réparation de la dette de la France à leur égard, celle simplement d'une dignité complètement retrouvée. Les harkis, c'est un avenir commun, celui par-delà le passé d'un avenir en commun, celui du vivre ensemble, celui du faire ensemble, en pleine appartenance à la communauté nationale, en rempart aussi contre la radicalisation. Car il y a un avenir pour les descendants de harkis, en particulier les petits-enfants, dans le droit désormais commun, certes, mais dans une mémoire qui ne sera jamais banalisée, une mémoire apaisée, lien entre souvenir et avenir, comme veut y contribuer le colloque qui nous réunit aujourd'hui. La leçon que j'ai personnellement tirée de la mission confiée, des déplacements effectués, des auditions réalisées, des personnes rencontrées, a été une leçon de vie, une grande et belle leçon de vie, leçon d'humanité aussi. Ma volonté, celle des personnes qui m'ont entouré, a été de contribuer à ce que la flamme de l'espoir et de la mémoire jamais ne s'éteigne et d'ouvrir la voie à un avenir meilleur pour les enfants de harkis, pour leurs petits-enfants, un avenir inscrit dans notre creuset national, le creuset français. En somme, les harkis, leurs familles, cela a toujours été une immense attente et une soif d'absolu. Une soif d'absolu qui ressemble furieusement à l'amour. Une soif d'absolu qui a les traits et le visage de la France, qui ne supporte pas d'être abîmée, malmenée, maltraitée, Insulter un harki, harki égale traître, c'est insulter la France. Finalement, je crois profondément que les harkis ont besoin qu'on leur dise qu'on les aime, après les avoir rejetés, que la France les aime. Voilà qui sont les harkis. Mais que sont-ils aujourd'hui? Quelle est leur mémoire? Sont-ils pleinement reconnus, réparés? Ce n'est pas tout à fait un hasard si j'ai intitulé le rapport que j'ai remis à la ministre des Armées et des Anciens Combattants aux harkis, la France reconnaissante. Par ce titre, référence transparente à l'inscription illustre qui orne le fronton du Panthéon à Paris, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, j'ai entendu signifier non, bien sûr, que les harkis sont tous des grands hommes au sens où ils mériteraient d'être panthéonisés, mais qu'ils méritent une reconnaissance pleine et entière de leur mère patrie, la France. C'est en ce sens que j'ai considéré qu'ils avaient collectivement leur place au panthéon de notre histoire récente. Non pas que rien n'ait été fait avant en termes de reconnaissance, notamment les présidents de la République qui sont succédés depuis Jacques Chirac. La loi également. Je pense à la loi du 23 février 2005 qui a posé les bases et les cadres rendant hommage aux harkis et ouvert la voie à l'indemnisation des anciens et de leurs veuves. Mais ce n'était pas suffisant. Tous les harkis que j'ai rencontrés, leurs enfants, les représentants d'associations, me l'ont fait savoir, parfois sans ménagement. Mais comment leur en vouloir quand on sait ce qu'a été leur vie? Il fallait donc faire plus, aller au-delà de ce qui avait déjà été fait, de ce qui avait déjà été dit. Que faire? Que dire? Comment faire? Comment le dire? C'est chemin faisant que l'idée du pardon et l'initiative de la loi ont germé. Le pardon d'abord, c'est le pardon du président de la République, exprimé à l'Élysée le 20 septembre 2021, je cite. Aujourd'hui, au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants, à voix haute et solennelle, que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance, nous n'oublierons pas, aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas. Pour avoir proposé ce pardon, pour avoir participé à la rédaction du discours du président de la République, je vais vous faire pénétrer avec moi un instant dans les coulisses du pouvoir. Sans révéler ici de secret d'État, je peux vous confier que l'histoire du pardon n'a pas été un long fleuve tranquille. Un certain nombre de personnes, y compris dans l'entourage élyséen proche du président, n'en voulaient pas, au motif que demander pardon, ce serait faire œuvre de repentance et que la France n'avait pas à se repentir. Jusqu'au dernier jour, le pardon est ainsi resté en suspens. Et c'est Emmanuel Macron, personnellement, qui a tranché en sa faveur dans la nuit qui a précédé le prononcé du discours. Quand un pays regarde son histoire en face, il ne se repent pas. C'est dans son discours du pardon que le président de la République a annoncé la future loi de réparation en ces termes. C'est pourquoi le gouvernement portera, avant la fin de l'année, un projet visant à inscrire dans le marbre de nos lois la reconnaissance et la réparation à l'égard des harkis. La loi, donc, c'est la loi du 23 février 2022 qui, outre la reconnaissance inscrite dans le marbre de la loi, comme le dit le président, outre le mécanisme de réparation qu'elle instaure, emploie dans son article premier des mots aussi forts qu'abandon, que responsabilité que la nation reconnaît pour la première fois, qu'indignité, que privation, qu'atteinte aux libertés individuelles. La voie qui a conduit à cette loi s'est avérée, elle aussi, une voie étroite. Au-delà du fonds de solidarité pour les enfants de harkis, dont mon rapport avait été directement à l'origine, mais qui ne nécessitait pas le vote d'une loi, puisqu'un décret suffisait, et qui n'était pas de la réparation au sens stricto sensu, au sens de faute, responsabilité de l'État, préjudice, indemnisation, il a fallu un autre fait générateur, en l'occurrence une décision de justice qui date d'octobre 2018 sur la requête d'un fils de Harki, M. Kader Tamazunt, épaulé par son frère Charles. Le Conseil d'État, puisque c'est lui qui s'est prononcé en 2018, a ainsi jugé que l'État était responsable et devait être condamné pour faute à raison des conditions de vie qui avaient été réservées à Kader Tamazunt entre 1963 et 1975 dans le camp de Bias, dans le Lot-et-Garonne. Cette décision, elle a ensuite été confortée et amplifiée par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, du 4 avril 2024, après donc le vote de la loi 2022, reconnaissant cette fois une atteinte à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants pour les séjours effectués à Bias et aussi plus près de chez nous, à Saint-Maurice-l'Ardoise dans le Gard. Ainsi, sont donc pleinement pris en compte les camps de transit qui ne furent pas que des camps de transit, loin de là. Pour ma part, j'étais parvenu à faire considérer les hameaux de forestage à l'égal des camps pour ouvrir les droits. Par contre, les cités urbaines et autres ensembles ayant accueilli des familles de Harki n'avaient pas pu être retenues à l'époque, faute d'être suffisamment documentées. Cette omission a été réparée depuis par l'ajout récent, pour ce qui concerne les Alpes de Haute-Provence, du quartier Saint-Maurice, de la cité des Quatre Saisons et de la cité Saint-Martin à Manosque. Dans les Alpes de Haute-Provence, toujours, nous comptons 5 hameaux forestiers, appelés des hameaux de forestage. Saint-André-les-Alpes, dans l'arrondissement de Castellane, dont je suis le sous-préfet, Josier, Sisteron, Bayon, et bien sûr, Ongles, précurseur pour l'accueil des familles de Harki dès 1962, 133 familles pour un village qui comptait à l'époque quelque 240 habitants, précurseur pour leur insertion professionnelle et qui dispose du seul lieu en France, qui est la Mémo, entièrement consacrée à l'histoire des Harki. Son président est parmi nous, comme Madame le maire d'Ongles. Le président de la Mémo interviendra dans une des tables rondes de cette matinée. Il est essentiel, et j'en terminerai par là, que les jeunes générations, les élèves qui participent à ce colloque, sachent quelles étaient les conditions de vie des Harki, des enfants, des bébés. Certains, plusieurs dizaines, sont morts dans des camps de froid, de faim, ont été inhumés à même le sol, dans des conditions qui n'ont pas forcément permis de préserver les sépultures, à supposer qu'elles aient pu être localisées. Les conditions de vie donc dans les camps ou dans les hameaux, à l'écart des villes, à l'écart des villages. Ces conditions de vie, on a de la peine à le croire aujourd'hui, mais c'était en France. Et c'était en France dans les années 1960, 1970, 1980. Isolement, barbelé, promiscuité, famille entassée dans des baraquements amiantés, humidité, rationnement du chauffage, de l'électricité, lecture à la bougie le soir, comme Jeanne qui en témoigne dans le film. Conditions d'hygiène déplorables, pas toujours d'eau courante, douche, WC collectif à l'extérieur, carences alimentaires, anémie, rachitisme, alcoolisme, violence, troubles psychiatriques, suicide, déscolarisation, abus commis par les chefs de camp, y compris sur les personnes, sur les femmes, abus d'autorité, brimades, vexations, jusqu'au détournement des indemnisations et des allocations. N'en jetez plus, la coupe est pleine, sans tomber dans le misérabilisme des misérables que Victor Hugo et Émile Zola n'auraient pas renié. Traitements humains, inhumains et dégradants, a dit la Cour européenne des droits de l'homme. On comprend à cet énoncé pourquoi les Harki, leurs enfants, sont souvent, et encore après tout ce temps passé, des écorchés vifs. Dans ce champ de ruines, l'espoir, une note d'espoir, pour conclure. La lumière au bout du tunnel, c'est aussi le sens de ce colloque aujourd'hui. La lumière, ce sont souvent les femmes, les filles, qui nous la porte. Les femmes de Harki d'abord, les mères courage, souvent ignorées, méconnues, leur rôle est minoré quand il n'est pas passé sous silence. Sacrées femmes pourtant, que ces femmes, à la progéniture la plupart du temps nombreuses, valeureuses, solides, véritables piliers de la famille en l'absence du père, ou lorsque le père ne se remet pas des traumatismes de la guerre. Oui, souvent, elles ont autant souffert que leur mari en Algérie, en France, pendant la guerre, battues, violées, torturées. Les exemples et les témoignages sont innombrables. Il est heureux que la loi les ait prises en considération, et ce depuis 2005. Alors qu'elles s'éteignent les unes après les autres, qu'un hommage ému leur soit rendu ici, honneur et respect. Les filles de Harki ensuite. Filles de Harki, c'est le titre de l'excellent documentaire coproduit par France 3 qui sera projeté cet après-midi. Vous y verrez quatre filles de Harki qui témoignent de leur chemin de vie, tous différents, mais réunis par la foi en la vie, par l'espérance, par l'amour de la France aussi. Vous y verrez Aline, qui ne peut pas être parmi nous ce matin, qui a grandi dans le camp de Jouk, dans les Bouches-du-Rhône. Vous y verrez Aïcha, qui a grandi dans le camp de Montbéliard, dans le Var, qui habite aujourd'hui Draguignan. Vous y verrez Yamina, qui a grandi dans une cité de Manosque. Vous y verrez de belles personnes, vous y verrez de beaux exemples, de belles réussites, car beaucoup de filles de Harki ont très bien réussi, qui sa vie personnelle, qui sa vie professionnelle, qui les deux. Elles sont notre fierté, quand on sait ce que nombre d'entre elles a enduré. Chapeau bas, mesdames. Rien que pour notre département, parmi celles que je connais, Margaret Missimili, directrice de l'ONAC VG et grande prêtresse de cette journée. Margaret Missimili, fille de Harki. Yamina Chalabi, témoigne donc du film, principale de collège, fille de Harki. Sylviane Zedatka Morel, ancienne élève comme moi de l'Institut Régional d'Administration de Bastia, l'IRAD Bastia, attachée d'administration de l'État à la Direction Départementale des Territoires, la DDT 04. Sylviane Zedatka Morel, fille de Harki. Dans le film, vous verrez aussi Jeanne, qui a grandi dans le camp du hameau de forestage d'Apt, dans le Vaucluse. Jeanne. Aujourd'hui, fonctionnaire territorial à la ville de Nice, Jeanne, fille de Harki, mère de trois beaux enfants aussi. Pour ma part, la cause des Harki, la demande de pardon de l'impardonnable, la réparation de l'irréparable, je l'ai soutenue, je l'ai portée, je l'ai même épousée. Jeanne Etari Sault.